Bon midi! Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Midi une exactement. Je sens que cette émission va vous faire réagir. Alors, je vous le dis tout de suite. 418-971-1021, le numéro pour nous joindre en par texto. 418-780-1021 par téléphone. Cherchez comment nous écouter. Vous êtes là, je suis dans mon auto, mais il va falloir que je retourne travailler. La web radio, blvd.fm. Également, BLVD 101, c'est notre application. C'est disponible sur App Store, Google Play Store gratuitement. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Le même petit haut-parleur intelligent qui traîne pas loin de vous. Vous êtes écouté BLVD. Et nos voix apparaissent immédiatement à l'endroit où vous êtes. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Les meilleurs moments de Boulevard s'y retrouvent, notamment le caucus avec Antonine Iaccarini qui va suivre dans quelques instants. À la météo, bien, ça a été une journée bizarre. Ça a commencé avec énormément de vent. Présentement, moins 5. Il peut y avoir de la neige dans certains secteurs. Ça va cesser en après-midi. Par la suite, ça va être généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Risque de bourrasque de neige cet après-midi. Poudrerie par endroits tard cet après-midi. Donc, soyez prudents au retour à la maison parce que ça va être des vents du sud-ouest à 60 km/h. Cette nuit, ça va être partiellement nuageux. 60 % de probabilité d'averse de neige tôt en soirée. Il y aura également de la poudrerie par endroit. Et demain, c'est le retour du soleil à moins 5 degrés. Pascal CV, Antonine Iaccarini, vous allez bien?
Salut, oui.
Très bien. Moi, je l'ai pogné la bourrasque de
neige. Ah ouais, t'as pogné ça, toi?
Bourrage de Nesque.
Ouais, c'est ça, j'ai eu un peu misère à le dire.
T'avais-tu de l'électricité, toi, ce matin, dans ton secteur?
J'en ai manqué un peu. Moi, je me suis fait réveiller à comme 4h30 du matin par le vent.
Badoum, pah!
Ah, ça frappait. Je me suis levé à 3h40, mais ça frappait dans les fenêtres chez nous.
Puis tantôt, quand je m'en venais vous voir, là, à un moment donné, je jasais sur mon Bluetooth là, avec mon ami. Là, puis à un moment donné, je suis comme, voyons, je suis comme dans un blizzard. C'est arrivé de nulle part.
C'est vrai que c'est paniquant, ça, quand tu prends ça sur la route. C'est comme, hey, tu deviens dans un mur blanc.
Puis les deux mains sur le volant, là, c'est l'expression pour...
Ouais, à 10h10.
Oui, oui. C'est là où nos cours de conduite ressortent.
Vraiment, vraiment, vraiment. Pascal, tu tiens le fort à pas avoir fait le point de max?
Oui, je suis encore là. Oui, c'est pas beaucoup de pause. Mais l'actualité, surtout, me tient en mille.
Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. Il faut beaucoup tout de vérifier. Nouvelles différentes. Et parlant de ça, qu'est-ce qu'on retient en manchette avant le caucus avec Antonine Iaccarini?
Mais d'abord, les pannes d'électricité, c'est un peu partout dans la province. On est au-dessus de 250 000 adresses touchées. Et on ne fait pas exception à la capitale nationale. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'agent Cartier, c'est compliqué pour Portneuf, c'est compliqué également pour tout ce qui est secteur de l'aéroport. Sainte-Foy, extrêmement touché également. Donc, je te dirais que c'est un peu partout dans la région. Même chose pour Chaudière-Appalaches. Donc, c'est les bourrasques de vent qui ont cassé des branches, qui ont obstrué tout ce qui est réseau d'Hydro-Québec. Je parlais ce matin à la porte-parole, puis ce qu'elle l'a dit, c'est que ça devrait être résorbé, puis ça devrait être replacé d'ici l'arrivée à la maison cet après-midi avec les enfants, l'heure du souper, les bains et tout ça, vous devriez être correct. Elle a dit qu'en fin de journée, ça devrait être rétabli. Les grands vents à Québec, ben ça fait jaser aussi sur le pont Pierre-Laporte, puis ça a pas mal obstrué le secteur. On est toujours dans une difficulté. Il y a un gros ralentissement parce que il y a un camion qui a renversé sur le pont Pierre-Laporte. Là, il faut faire attention à comment on le dit. Hein, il est tombé dans l'eau? Non. Hein, y a-t-il des blessés? Non. Il a vraiment juste versé un peu sur le côté, ce qui a fait en sorte qu'il ne pouvait pas revenir sur toutes ses roues puis continuer, puis ça a créé le bouchon de circulation qu'on a connu dans les deux sens. Personne n'a été blessé, c'est la bonne nouvelle, mais avec des vents, des rafales qui atteignaient entre 70 et 90 km/h sur le pont Pierre-Laporte, il faut redoubler de prudence et c'est arrivé malheureusement pour ce chauffeur-là de se faire renverser. Agression sexuelle en position d'autorité, eh bien, il y a un ancien député du Bloc québécois qui a été arrêté à Québec. Il s'appelle Pascal-Pierre Payet. Il a 47 ans. Il a été député de 2008 à 2011. Et là, il s'est fait mettre la main au collet. On est allé chercher dans le secteur de Saint-Augustin-des-Morts ce matin. C'est un enseignant de formation. Et le Centre de services scolaires de la capitale a confirmé par ailleurs qu'il était hors et suspendu des murs de la commission scolaire depuis plus d'un mois en raison d'une troublante histoire. Ce sont des accusations qui devraient comparaître au Palais de justice de Québec cet après-midi pour un événement en 2006 et un autre en 2024. Et dans le Journal de Québec, on a eu accès à Matisse, une présumée victime qui a raconté un peu son histoire. Travaux du tramway, les déplacements sont perturbés dès samedi. Ça fait écho et on n'en jase pas assez. Sachez-le, là, dès samedi, trajet d'autobus modifié, ajout de sens unique, retrait de cases de stationnement, beaucoup de changements liés à la mobilité qui vont entrer en vigueur. Et ça, ça coïncide avec le déploiement du nouveau réseau du RTC. Il va falloir vérifier autant sur les sites de la ville qu'au RTC. Et je termine avec Donald Trump. Donald Trump a pris la parole dans la dernière heure. Détroit d'Ormuz, il dit « Ah, j'avais besoin de l'OTAN, mais finalement, j'en ai jamais eu besoin. » C'était sa prise de parole. Et on a appris également que il y a Joe Kent, c'est le chef du contre-terrorisme qui accuse Donald Trump de s'être fait avoir par Israël en Iran et il a démissionné. C'était directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme et dit « On n'a rien à voir dans ce conflit-là actuellement. On n'aurait jamais dû prendre les armes et on n'aurait jamais dû attaquer l'Iran. »
On va avoir Éric Sauvé, ex-haut gradé des Forces armées canadiennes avec nous aux alentours de 12h40 justement pour parler de ce conflit au Moyen-Orient. Place au caucus!
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iaccarini, bombe médiatique par la presse ce matin concernant les fameux textos de Brownies qui avaient été publiés par le Journal de Québec, Journal de Montréal. On se rappelle le tout avec Pablo Rodriguez immédiatement.
Qu'on attribue à certaines personnes, chacune des deux personnes, là, c'est pas quelqu'un sur le coin de rue, chacune des deux personnes qui sont des députés de deux partis différents disent que refusent ça et menacent même de poursuites. Alors, ce qui est vrai, ce qui est prouvé là-dedans, j'ai aucune idée.
Le juge Fournier, dans son rapport, le juge qui avait été mandaté par le Parti libéral du Québec pour faire la lumière sur ceci, avait dit « Je ne peux pas valider l'existence même de cette série de textos ». Et là, c'est dans un article de la presse, l'UPAC qui se pose de sérieuses questions si ces textos ont déjà existé, à savoir si ça ne serait pas un montage.
Parce que ça se peut que ce soit un montage.
Mais là, qui en voulait à ce point à Pablo Rodriguez si c'est un montage?
Bon, d'abord, l'UPAC dit qu'elle doute de la validité de ces captures d'écran de textos, supposément entre deux députés qui parlent finalement de payer des gens pour voter dans le cadre de la course à la direction du Parti libéral. L'UPAC doute, le juge Fournier doutait. Bon, le juge Fournier, il était engagé par le Parti libéral. Il a dit lui-même que c'était un chien édenté et qu'il n'y avait pas les moyens pour...
Exactement. Faut que l'on s'est dit bof.
Mais là, l'UPAC, bon. Je pense que douter, c'est la chose à faire. Il le faut parce que c'est tellement facile de produire ce genre d'image-là. Et là, je ne veux pas remettre en question la probité de Québécois. Eux disent qu'ils ont fait les vérifications. Ils ne veulent pas trop embarquer dans les justifications parce qu'il y a une question aussi de protection des sources. Sauf qu'à un moment donné, il faut être capable de démontrer sans dire « Ah, oh, c'est telle personne qui me l'a envoyé ». Il faut quand même être en mesure de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que c'est véridique. Sinon, on ne peut pas prendre pour acquis que c'est vrai. C'est pas... Le fardeau de la preuve, c'est toujours du côté de l'accusation. C'est pas du côté de l'accusé. En politique, c'est un peu plus compliqué qu'au tribunal. Pablo Rodriguez le sait.
Oui, c'est ça. Il y a le tribunal public.
Et voilà. Et aussi, il faut comprendre pourquoi... Moi, la question que je vous pose, c'est, à votre avis, pourquoi on y a tant cru? Ben, c'est parce qu'il y a un passif au Parti libéral. Les gens, ils croient que ça se peut parce qu'il y a une historique au Parti libéral qui fait qu'on se dit, ben oui, encore les mêmes magouilles. Donc, il y a ça aussi que le PLQ
en effet
doit traîner. Et autre élément, c'est que même si ces textos-là n'étaient pas véritables, puis après ça, je vais te dire mon hypothèse, mais si ces textos-là n'étaient pas véridiques, ça ne change pas le fait qu'Emmanuel Cabral a avoué avoir payé des gens lui-même avec
en
l'argent
effet.
Cash.
Ça, c'est la fameuse rencontre à son domicile.
Soirée de financement.
Où Pablo Rodriguez est. Puis là, ben, on dit aux gens, « Hey, quand V'là des 100 piastres, mettez votre nom sur la liste, puis on est parti pour la gloire avec Pablo.
Ça, c'est arrivé, il l'a avoué. Il a dit ce qu'il veut chez eux.
Ça, c'est vrai. Il s'est postiné. La location dans l'immeuble de sa femme, c'est vrai aussi. Pablo Rodriguez ne l'a jamais réfuté.
Exact. Rien d'illégal là, mais l'éthique.
Ouais. Rien d'illégal, mais la morale, on repassera.
Donc, tout ça est vrai. Il y a encore une enquête en cours à l'UPAC. Il y a encore une enquête en cours au directeur général des élections. Tout ça existe et cohabite avec la poursuite Geneviève Vince, Marois Risky, qu'on ne connaît toujours pas exactement le lien entre cette affaire-là et l'histoire des textos. Maintenant, je reviens à la véracité ou non de ces textos-là. On se dit, qui a intérêt à faire ça et pourquoi?
Oui, ben, c'est quelqu'un qui voudrait le trône.
C'est pas Marois Risky certain, parce qu'elle était dans la campagne à Pablo Rodriguez.
Fait que quelqu'un qui veut le trône. Charles Milliard, Carl Blackburn.
L'UPAC nous dit qu'elle n'a pas de raison de croire que ça vient des équipes de ces candidats-là. Donc, il n'y a aucune démonstration. Après ça, est-ce qu'on peut prouver le contraire? C'est la même chose pour l'instant. L'enquête se poursuit. Il faut dire aussi que des informations comme ça qui coulent d'une enquête, ça peut être premièrement des fuites, mais ça peut aussi être un ballon d'essai. Donc, on lance ça dans les airs en se disant, bien, peut-être que les personnes vont vouloir se manifester auprès de nous et dire, un instant, c'est pas un montage, c'est arrivé. Je veux une protection, une immunité en échange des informations. Tu sais, on sait pas. Des fois, les policiers veulent faire bouger les choses. Puis l'UPAC a des précédents en termes de coulage d'informations.
En
on l'avait
effet.
Vu dans l'enquête Machuret.
Ben, d'ailleurs, à cet effet-là, Yannick Marceau, dans Marceau le matin, ce matin, il disait avec raison, il y a quelqu'un qui a appelé les journalistes pour dire « Hey, l'UPAC s'en va chez Marois Risky ».
Oui, il paraît que c'est Marois Risky. Mais en tout cas, ça, c'est la rumeur qui circulait. Maintenant, qui a intérêt et pourquoi? Ben, des fois, c'est l'explication la plus niaiseuse qui est la vraie. Okay? Moi, dans le temps, quand je travaillais en politique, des fois, il y a des affaires qui coulaient dans les journaux. Puis, je me disais, ben voyons, qui a intérêt à faire ça? Puis là, j'essayais de trouver la personne qui faisait la tactique, puis comment ça allait. Souvent, là, c'était des affaires tellement niaiseuses. C'était finalement quelqu'un qui voulait se rendre intéressant. Quelqu'un qui a fait une joke à quelqu'un. Et je n'ai jamais exclu que ces textos-là, là, c'était deux personnes qui faisaient un peu une blague ou deux staffers ou deux membres d'équipe qui ont fait une fausse discussion et que finalement se disent maintenant « Tabarouette, ça a escaladé vite, cette affaire-là. »
Es-tu en train de me dire qu'on pourrait partir d'une niaiserie, voire une blague, et ça aurait mené à la démission de Pablo Rodriguez?
Je ne l'exclus pas. Là, à te dire c'est quoi les chances exactes que ce soit arrivé par rapport à autre chose, je ne me prononce pas là-dessus. Mais des fois, c'est des niaiseries qui partent des tempêtes. Puis tu sais, le journal a publié ça. Il n'a pas publié les noms. C'est Cogeco qui a publié les noms.
Oui.
Là, il y a comme des petits morceaux qui s'ajoutent, puis il y a aussi la course au scoop là, là-dedans. Là, puis tout le monde
vraiment
en rajoute un peu. Après ça, quand on a lancé ça dans l'espace public, à travers la crise de Marois Risky, bien, là, les informations se mettent à rentrer aussi. Hein. Quand tu commences à... Tu sais, tu fais un article sur un sujet, puis là, il y a d'autres personnes qui disent hey, « moi aussi, j'ai vu ça. Hey, moi, j'ai vu quelqu'un qui a donné 100$. Moi, nanana. »
Premièrement, par texto, les auditeurs disent que t'en sais beaucoup trop, donc c'est toi.
Ah, oh, c'est moi! Hey, là, là.
Deuxièmement, admettons que j'ai inventé la séquence de texto pour rire. Mais là, je creuse encore plus.
Ou pour nuire.
Et là, je creuse encore plus dans l'hypothèse pour nuire parce que je me dis, hein, si je sors ça, là, ça va se savoir la petite soirée chez Cabral. Ça
peut-être
va se savoir le petit local. Ça va se savoir l'autre affaire. Puis là, bingo, il est foutu.
Oui. Ou alors, parce que je vous rappelle qu'au départ, il y avait deux députés, une libérale et une caquiste, qui étaient concernées.
Ouais. En effet.
Est-ce qu'on veut plutôt nuire à la députée caquiste?
Mm-hmm.
Donc, les possibilités sont infinies.
Chose certaine, c'est pas à CAQ qui voulait nuire à Pablo Rodriguez. François Legault nous l'a dit off the
record.
Il voulait Pablo comme adversaire.
Donc, puis il aurait gardé ça pour plus tard. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui arrive des fois. Hein. Les journalistes ou les opposants ont une information, mais préfèrent attendre un petit peu un meilleur timing pour la sortir.
Ouais.
Mais ce que je veux vous dire avec ça, c'est qu'il faut être prudent avec ce genre de nouvelles-là. Ça efface pas tout le reste qui est autour, mais même qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pablo Rodriguez, qu'on soit libéral ou pas libéral, n'importe qui peut faire l'objet d'un montage un jour dans sa vie, puis être pogné pour se défendre de quelque chose. Donc, soyons prudents, soyons rigoureux. Continuons de se dire qu'il y a beaucoup de possibilités différentes entourant ces textos-là et laissons l'UPAC, évidemment, faire son enquête.
Exactement.
Et soyons ouverts d'esprit, on va dire ça comme ça.
En effet, t'as entièrement raison. C'est une très, très belle mise en garde, mais t'en sais beaucoup, Antonine Iaccarini.
J'ai l'air de même, mais je parle absolument
je
à travers mon chapeau.
Je vais commencer à surveiller mes arrières. J'ai pas le choix.
Oui, d'ailleurs, il y a une capture d'écran. Là, tu as une discussion avec quelqu'un là, qui a commencé à circuler.
Ah oui?
Ben non.
Je vais aller voir ça. On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini. C'est de midi à 12h30 du lundi au jeudi à l'émission On en jase à Boulevard 101. Gaz de schiste!
Hey!
Christine Fréchette nous a ramené ça. J'ai dit, mais my God, on est de retour dans les années 2010, même les années 2000.
Retour vers le futur.
Retour vers le futur, les années, justement, de Pauline Marois. Avant qu'on passe sur le débat, hey, on rouvre-tu ça, on rouvre-tu pas ça, gaz de schiste, explique-nous qu'est-ce que l'exploitation de gaz de schiste.
Oh mon Dieu, ben là, je suis pas une spécialiste. Mais le gaz de schiste, c'est du gaz qui est présent dans le sol et qui demande une fracturation. Donc déjà, ça, c'est toujours un peu controversé parce qu'il y a des conséquences environnementales. Et il y a quelques années, le Québec s'est penché sur le potentiel d'exploiter ce gaz naturel qui est présent dans certaines régions du Québec, notamment le centre du Québec. Et il y avait un documentaire notamment qui était sorti aux États-Unis puis qui montrait que c'était épouvantable puis que l'eau pognait un feu dans les robinets. Puis il y avait eu vraiment là, un débat.
Oui, d'ailleurs, il y a eu une grosse montée aux États-Unis au début des années 2010, mais une fracture, c'est le cas de le dire, en 2016, où on a dit, bah, savez-vous pourquoi on pourrait être un petit peu plus lent à développer cette technologie-là ou à extraire ce minéral-là?
Ce qui faisait scandale aussi, c'est que, scandale, c'est que c'est vraiment dans la cour des gens. C'est-à-dire qu'à quelques mètres de chez vous, vous avez un puits à gaz qui comporte certains risques, en plus des conséquences environnementales de la fracturation. Et on était dans des années où on parlait de développer davantage de l'éolien. Il y a eu aussi des années où Hydro-Québec était dans des surplus. Donc, finalement, ça avait été laissé tomber parce qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, mais je mets un gros bémol à ça, parce qu'on n'est pas capable de définir c'est quoi l'acceptabilité sociale au Québec. C'est un de nos problèmes. Mais aussi parce que le besoin n'était pas non plus criant pour ce type de gaz-là. Mais là, le contexte a changé un petit peu sur la scène internationale.
Oui, en effet. Là, avec tout le respect que j'ai pour Christine Fréchette, elle va quand même être une première ministre de passage si elle gagne la course à la chefferie de la CAQ au mois d'avril. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon temps de sortir justement ce dossier-là qui était rempli de poussière là, dans une étagère? Je veux te faire entendre la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je trouvais ça intéressant. Il l'a fait en conférence de presse tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon risque d'être le prochain premier ministre au Québec. Voici ce qu'il avait à dire sur l'exploitation du gaz de schiste.
Le débat est final, à mon avis. Il a été fait. Donc, le gaz de schiste, le problème est le suivant. Il y a un véritable risque de contamination des nappes phréatiques. Il y a un empiètement véritable sur les activités humaines, dont l'activité de nous nourrir, là, l'agriculture, et touchée par cette activité-là. Les bénéfices pour la société ne sont absolument pas comparables aux risques puis aux problèmes générés par cette industrie-là. Et au final, on a retourné de tous les côtés cette option-là pendant des années au Québec. Le débat a été fait, puis ça a débouché sur une loi, qui est la loi de la CAQ elle-même, là. Donc, de notre côté, la qualité de l'eau, la qualité de l'environnement, la qualité de l'agriculture, mais également le fait qu'une fois que le puits est terminé, les entreprises laissent ça en plan, avec des conséquences financières immenses pour l'État, là. Tous ces facteurs-là militent pour le maintien de la décision de 2022.
Pour moi, ça fait plein de sens que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit ce matin. Je te pose la question, Antonine, si je veux sortir des sentiers battus du côté de Christine Fréchette, parce qu'on ne se le cachera pas, même si elle a l'air en avance dans les sondages, c'est Bernard Drainville qui contrôle l'agenda politique de cette course-là avec déclaration par-dessus déclaration. Arrêtes-tu pas plus choisir, exemple, l'exploitation du gaz naturel plutôt que le gaz de schiste? Ça me semble plus logique.
Bien, le gaz de schiste, c'est un gaz naturel. C'est simplement dans la manière dont il est réparti.
Oui, mais c'est ce que je voulais dire, là.
Donc, en fait, c'est que ce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit, c'est rigoureusement vrai. C'est un débat qui a eu lieu, ça a été évalué, les inconvénients dépassaient les avantages. Mais il y a eu un changement majeur depuis ce temps-là qui est le contexte international et la rareté de l'énergie. Hein, on en a beaucoup plus besoin. Hydro-Québec était dans des surplus il y a quelques années. Maintenant, au contraire, on cherche des manières de sortir un peu plus du pétrole. On a des projets industriels qui demandent de l'énergie. Le gaz naturel peut être une forme d'énergie qui soit utilisée, quoique c'est quand même... On est dans une lutte au changement climatique, puis c'est vraiment pas l'idéal, le gaz naturel, à ce titre-là. Et on a des pays européens qui cherchent de l'approvisionnement en gaz naturel. Mais avant de penser exploiter du gaz naturel ici, bien, l'Ouest canadien en produit déjà. Okay? Mm-hmm. Puis c'est sûr, c'est pas au Québec. Mais il me semble que la priorité, c'est davantage de construire une manière de transporter vers l'Est et de l'exporter vers l'Europe si vraiment on veut aller là-dedans, plutôt que de commencer à fracturer dans le cours des gens, de repartir un mélodrame. Donc, sur le fond des choses, je ne suis pas convaincue de la pertinence, mais pourquoi ne pas l'évaluer? Par contre, Mme Fréchette, elle aurait pu évaluer ça en privé avec ses ministres une fois élue à la tête de la CAQ.
Bien, c'est ça, là.
Elle décide d'envoyer ça dans l'espace public. Pourquoi? Tu l'as dit, Bernard Drinville a été à l'attaque pendant cette course à la chefferie-là. Et là, on tombe dans la tactique politique et c'est fascinant parce que Bernard Drinville, là, il a été porte-parole en matière d'énergie au Parti québécois. Et ses positions sur le gaz de schiste étaient très, très claires. Et comme caquiste maintenant, il veut se positionner comme un petit peu plus conservateur, un petit peu
plus à droite.
Plus à droite
en
on
effet.
Veut exploiter nos ressources, lâchez-moi avec les GES. Donc là, Madame Fréchette, elle le met dans une situation, Bernard Drinville, où naturellement, pour sa course, il devrait être d'accord avec ça. Mais là, on peut le mettre en contradiction avec ce que Bernard Drinville de 2013-2014 disait.
Il n'y aura pas de misère à se défaire de cette contradiction-là parce que sur nos ondes, justement, vendredi dernier, lorsqu'il a répondu aux questions des auditeurs, c'est disponible sur le blvd.fm, c'était dans l'émission Marceau le matin. Et il l'a dit, tu sais, moi, ma pensée a évolué au cours de ma carrière politique et voici pourquoi je suis rendu là. Bon, là, tu fais des gros yeux, on peut le croire ou pas le croire. On
peut avoir envie de mettre en exergue le grand écart et les contorsions de M. Drinville pour nuire au niveau de confiance des électeurs par rapport à sa personnalité qui est déjà challengée dans l'espace public quand on regarde les sondages de satisfaction et d'appui à M. Drinville. Donc, c'est win-win pour Christine Fréchette parce que là, elle fait juste dire « Oh, j'ouvre la porte, on y pense », tu sais, puis ça l'engage absolument
en effet.
À rien. Puis M. Drinville se retrouve à réagir à ce qu'elle dit. Et en plus, on a une contradiction entre Bernard Drinville péquiste puis Bernard Drinville caquiste.
Mais là, tu sais, je vais te donner mon opinion et je vais la donner de façon très brute, là. Ça m'énerve quand on sort d'une course à chefferie pour sortir n'importe quoi des boulamites, là. Ben, je veux dire, le gaz de schiste, c'est un auditeur ou une auditrice qui nous écrit ça, tu sais. C'est un problème d'une technologie d'un autre temps. La technologie a évolué. Il faut savoir avancer et reconnaître que c'est plus ce que ça a déjà été. Moi, j'aime autant mieux qu'on parle des projets de gazoduc, justement, à Baie-Comeau, au Saguenay.
Puis on a de la misère, Jeff, à mettre des éoliennes au Québec en ce moment. Le monde, il y a des gens qui ont le pas dans ma cour pour des éoliennes.
Mais en plein
Est-ce qu'on
ça.
Veut utiliser nos cartouches d'acceptabilité sociale pour cette forme d'énergie-là? Honnêtement, puis tu sais, si vous voulez utiliser des cartouches d'acceptabilité sociale, là, sans m'étendre sur le sujet, le nucléaire, c'est pas mal plus prolifique en énergie, puis pas mal moins dangereux pour l'environnement
entièrement
que
raison.
Le gaz de schiste. Donc, tu sais, moi, je pense pas qu'elle veut vraiment aller de l'avant, sinon elle l'aurait fait évaluer. Bon, elle était au ministère de l'Énergie depuis...
Mais c'est ça, là.
Elle le sait bien, là,
mais
déjà.
Oui,
fait
que
c'est pour la course.
Pas.
Et ça nous amène finalement à dire que cette course-là, là, il est temps que ça finisse.
Il est temps que ça finisse parce que là, c'est des aberrations qui sortent de part et d'autre.
Et les propositions sur le prix de l'essence aussi. Mm-hmm. Là, si j'étais Éric Girard, là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, là, j'aurais roulé des yeux là, en disant hey, j'essaie de boucler un budget, j'essaie de combattre le déficit. Puis là, vous m'arrivez avec des propositions de coin de table. Il est temps que ça finisse.
Des propositions de gaz, de schiste et des propositions qui ne font pas du tout de sens. Antonine et Pascal, vous n'étiez pas là vendredi et j'ai fait jouer cette chanson-là pour parler de Mark Carney. Mais là, ça va également, cette chanson-là, être très bon pour Bruno Marchand.
Voyage, voyage.
Les auditeurs me disaient à rentrer dans la tête. J'ai chanté toute la fin de semaine.
Dans l'espace, inouï de l'âme.
Aimez-vous ça? On peut danser. Bruno en Alberta.
Bon, il va pas très loin, là.
Il va pas très loin, en effet. Il est pas comme Mark Carney, mais il est en Alberta, notre ami Bruno. Notre ami Bruno, il a amené Raymond Poirier, le conseiller municipal du district de Limoilou. Lui, ça s'adonne que c'est le responsable des communications pour les travaux du tramway auprès des citoyens. Ouais. Il a amené Jean-Luc Lavoie. Lui, c'est le conseiller municipal de Pointe-Sainte-Foy. Lui, là, ce qu'il fait, Jean-Luc Lavoie, c'est qu'il s'occupe des communications pour les commerçants. Et le 4 février dernier, Marie Langlois avait cet extraordinaire qualificatif pour M. Lavoie et son travail. Marie Langlois est la DG de la Société de développement commercial Montcalm, donc René Lévesque, Avenue Cartier.
Pour l'instant, il n'y a pas plus de réponses. Ils ne sont pas capables de nous donner de date. Fait que nous autres, on est comme figés. Comme moi, je suis figée, j'ai des événements qui s'en viennent. Est-ce que je vais être capable d'y tenir? Est-ce que les travaux vont être rendus là? Mes commerçants, tout le monde se pose des questions. Tout le monde est inquiet. Mais personne n'est capable de nous donner de date.
Alors voilà, personne n'est capable de nous donner de date. Donc Jean-Luc Lavoie, qui est en Alberta, n'est pas capable de prendre soin des commerçants. Étant un animateur très rigoureux, Antonine, j'ai texté Mme Langlois aujourd'hui pour lui demander « Pis, ça va-tu mieux, les communications? » Parce que là, Jean-Luc Lavoie, il est en Alberta, puis les travaux commencent le 21 mars. Elle m'a répondu « Bof! Il y a des ajustements à faire, mais il y a une volonté d'amélioration. » Hey, ça, c'est rassurant pour les commerçants, ça. Ben. Travaux commencent samedi. Mais là, le gars qui s'occupe de ça, il est en Alberta. Pourquoi? Parce qu'il est parti faire un...
Voyage, voyage!
À quoi que vous allez la chanter?
Je l'ai constamment dans la tête depuis 20 ans. Fait que ça sera pas nouveau.
Hein? C'est un hit pour toi, ça?
Ah oui, vraiment.
Voyage, voyage.
Ça manque de sérieux.
Bah, écoute. Je ne peux que dénoncer et appuyer les commerçants s'ils manquent d'informations pour le tramway. C'est déplorable. Est-ce que le timing est problématique? Certainement. Est-ce que la validité de ce voyage-voyage-là est à remettre en question puis jeter le bébé avec l'eau du bain? Je dirais que non. Parce que, honnêtement, ça va être gros, là, le tramway. Là. C'est un énorme projet. Et l'Alberta, il y a deux projets de tramway qui existent depuis la fin des années 70, début des années 80. Mm-hmm. Donc, moi, je m'attends aussi à mon administration municipale, de la part de mon administration municipale, d'aller chercher les meilleures pratiques, mais aussi d'éviter les erreurs du passé si elles sont à éviter. Donc, c'est pertinent. C'est juste le timing est ordinaire. En même temps, quand est-ce que tu voulais qu'il aille?
Je suis très d'accord.
À Noël?
Je suis très d'accord et je suis jamais contre le fait que le maire va aller à l'extérieur pour aller chercher de l'expertise. Par contre, c'est là. Ça commence samedi.
Oui.
L'Alberta, ça aurait dû être au printemps passé.
Oui, dans le premier mandat.
Ouais.
De M. Marchand.
C'est ça. Mais est-ce qu'on n'est pas allé parce qu'on s'est dit, faut pas montrer qu'on n'est pas en contrôle de la situation? Puis là, on y va là coller sur l'échéancier?
Je sais pas. Je pense que sur le timing, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi ça se passe maintenant. Surtout que, tu sais, moi, je veux qu'on apprenne des erreurs du passé. Je veux savoir comment on a
entièrement
fait
d'accord.
Dans des villes de grandeur similaires en passant. Là, maintenant, c'est rendu un peu plus gros, Calgary puis Edmonton. Mais dans les années dans lesquelles ils ont, eux, construit ces projets-là, qui sont la colonne vertébrale de la mobilité dans ces villes-là. C'est vraiment la même chose, avec des technologies qui se ressemblent. Je veux savoir comment ça s'est passé. En passant, il n'y a pas juste des beaux projets. Là, le tramway à Ottawa, là, ça a été pas un super exemple. Évidemment, je pense aussi qu'on va apprendre des leçons du REM, espérons-le.
J'espère que c'est des PQ infra.
C'est ça. Donc, il faut apprendre de tout ça. Puis c'est mon attente envers eux. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Peut-être aussi que le timing n'est pas bon au niveau des communications avec les commerçants, mais que le timing est quand même assez bon au niveau du moment et du niveau d'avancement du projet. En tout cas, moi, j'ai bien de la misère à leur garrocher des pierres.
Mais tu sais, on se pose toutes ces questions-là, mais ils auraient pu y répondre. Puis ça, c'est un problème majeur à la ville de Québec parce qu'on ne s'y poserait pas si on était transparent dans où on est rendu. Puis on accepterait de se faire challenger là-dessus, dans le sens où si on a attendu trop tard avant d'y aller puis que ce n'est pas la bonne semaine, puis qu'on se fait questionner là-dessus, puis qu'on pogne pas les mouches, puis qu'on fait « Savez-vous quoi? OK, oui, vous avez raison. » On va bien plus être collaboratif là-dedans. Je me trompe-tu?
Non, mais c'est vrai que l'enjeu de communication revient tout le temps. l'enjeu d'attitude et d'ouverture et d'écoute revient tout le temps. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu à un moment donné. Ce n'est pas un grand complot là, pour faire paraître la ville comme qui n'écoute pas puis dans le fond, il écoute vraiment. Il y a sûrement quelque chose à améliorer. Mais maintenant, la mission est prévue maintenant. Faites-la. Après ça, j'imagine qu'ils ne partent pas deux mois non plus.
Moi, je fais juste décrier le fait que les deux conseillers municipaux qui sont responsables des communications à quelques jours du début des travaux, ne sont pas disponibles pour les citoyens et les commerçants.
Oui, c'est ça. C'est plus la disponibilité, à mon avis, l'enjeu.
Exactement. À un moment donné, je dis toujours, si tu vas en mission, il faut que tu t'assures que ce qui est sur le terrain est bien géré. Et là, au dire de Marie Langlois, au dire des commerçants, c'est pas bien géré.
C'est pas
Donc,
optimal.
Je comprends pas ce que Jean-Luc Lavoie fait là-bas. Les gens par texto sont pas mal d'accord avec ceci. Carl, d'ailleurs, qui mentionne il aurait pu y aller il y a deux ans. Mais en effet, parce qu'en 2022, le Journal de Québec avait sorti un texte comme de quoi les ratés à Edmonton du tramway, on aurait pu aller voir les ratés là et s'inspirer. Ouais. Ça n'a pas été fait à ce moment-là.
Effectivement. Puis en conclusion, là, je change un peu de palier gouvernemental, mais tu sais, on parle de transparence puis de voyage. Moi, je pense que Mark Carney, notre premier ministre fédéral, est vraiment dû pour faire peut-être un discours à la nation ou une tournée d'entrevue parce que honnêtement là, tout le monde se pose énormément de questions sur ce qui se passe en Iran puis les négociations avec les États-Unis. S'il y en a un autre aussi qui aurait avantage d'avoir un peu plus de transparence, c'est bien lui.
Je suis entièrement d'accord avec toi, mais Mark Carney, cette semaine, c'est vrai qu'il est en...
Voyage, voyage!
Pourquoi je dis ça? Il est en vacances en Europe!
Il est pas en vacances!
Ben oui!
Il était en Angleterre avec le premier ministre Starmer.
Ah, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine qu'il sera en vacances.
Vacances, vacances.
Parce que il poursuit son voyage à des faits.
Tout un globe
à des fins personnelles. Hé, j'aimerais ça être un politicien.
Mais pour
vrai, voyager.
Discours à la nation, tournée d'entrevue.
Hey, clairement.
Ça peut pas juste être Dominique Leblanc.
Non, non, non. Puis aussi pour l'émission qu'il a fait à l'étranger aussi, qu'on en sache un petit peu plus sur les retombées présentes et futures, parce que c'est bien beau voyager, faire 17 voyages. Puis j'ai pas de problème avec ça parce qu'on est en train de changer complètement notre façon de faire en économie. Mais maintenant, comme dans n'importe quoi, ça prend un petit rapport.
Un petit rapport, un petit retour sur investissement.
C'est ça, exactement. Antonine Iaccarini, toujours un bonheur. On se parle demain?
À demain.
Le caucus avec Antonine Iaccarini, du lundi au jeudi, de midi à midi 30 dans l'émission Nangeas sur Boulevard 102.1. Précisément, midi 33 dans un instant à Boulevard 102.1. Éric Sauvé, ancien haut gradé des Forces armées canadiennes, va nous parler justement du conflit en Iran et de comment le Pentagone s'est mal préparé à cette intervention-là en Iran. Et également... la guerre, Pascal Séveille, la guerre, pas juste en Iran, entre Bruno Marchand et Sylvain Junot. Hier, on avait en entrevue Sylvain Junot, qui avait écrit une lettre aux médias disant « ça n'a pas d'allure qu'on abatte 1500 arbres alors que le financement du tramway n'est pas confirmé ». Aujourd'hui, Bruno Marchand réplique avec un document de 6 pages.
Ouais, mais il y avait le maire Junot, un peu passif-agressif.
Oui.
Le maire Marchand, assez agressif, là, avec des grands mots éloquents,
oui.
Mais on reste un peu politique, là, diplomate, mais bon. Et ensuite, t'as le maire Junot en entrevue avec nous hier, qui s'était calmé.
Oui.
Qui disait pour le tramway, qui n'était pas trop insurgé, qui voulait un peu, je pense, calmer la tension.
Séquence logique de
mais Bruno
financement.
Marchand n'avait pas dit son dernier mot.
Non, non, non. Après l'avoir traité de tout et non des médias qui l'accompagnent en Alberta, Bruno Marchand nous a envoyé aujourd'hui vers 11h30 un document de 6 pages pour dire à quel point Sylvain Junot, il a pas rapport. On parle de ceci dans un instant à Boulevard 102.
J'espère qu'on va pas revivre l'air, le houlier, la bombe. Là.
On est parti
cette fois-ci
pour
avec Saint-Hugues.
On est parti pour ça, Pascal Séveille.